Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle catéchèse Padre Blog. Nous avons vu ensemble que Jésus est un personnage historique qui a vraiment existé. Nous avons vu ensuite qu'il est le Fils unique du Père. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est pourquoi l'union de Dieu et de l'homme en Jésus est indispensable pour nous sauver. Pourquoi Jésus devait-il être vraiment homme et vraiment Dieu pour nous sauver? Dans cette union, dans cette articulation entre la divinité et l'humanité, il y a une affirmation essentielle de la théologie pour nos vies. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est facile à dire. Mais à y réfléchir 2 minutes, cela paraît contradictoire. Comment Dieu, infini, peut-il habiter un être fini? Comment Dieu, incréé, peut-il habiter un être créé dans la personne de Jésus? Comment la toute-puissance divine peut-elle cohabiter avec les limites de la nature humaine? Comment cela peut-il se passer sans que l'humanité soit avalée, sans qu'elle soit dissoute dans la divinité, sans qu'elle soit écrasée? Si Dieu a choisi ce chemin de salut, qu'est-ce que cela nous dit pour nous les hommes? Aujourd'hui, la catéchèse de Padre Blog décrit à nouveau la personne de Jésus-Christ. L'objectif est de vous aider à comprendre 3 choses. D'abord, comment la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a été formulée dans l'histoire. Ensuite, la chaîne de Dieu jusqu'à chaque homme. Enfin, comment notre humanité est élevée en Jésus à un degré que nous n'aurions jamais pu imaginer. La foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, a été formulée peu à peu dans les 8 premiers siècles de l'histoire. C'est long, parce que cette formulation est très audacieuse. Du point de vue philosophique, unir dans une personne Dieu et l'homme, cela paraît illogique, contradictoire. En 8 siècles, entre le 1er et le 8e siècle de l'histoire, les chrétiens ont peu à peu détaillé, compris, formulé ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ. La divinité de Jésus et son humanité véritable ont été les premières affirmations de la foi sur lesquelles des hérésies sont apparues. Une hérésie, c'est une déviance de la foi. C'est un enseignement sur la foi chrétienne qui n'est pas conforme à la révélation. Une hérésie, elle peut être affirmée délibérément, en toute conscience, en toute connaissance de cause, mais elle peut aussi être affirmée inconsciemment, sans que la personne ne se rende compte de l'erreur qu'elle professe. Voilà 3 exemples d'hérésie. Le premier exemple, c'est l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, c'est affirmer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas la deuxième personne de la Trinité, mais il est simplement un être humain, adopté comme fils de Dieu pour ses mérites. Jésus est un homme extraordinaire, un super homme, mais il n'est pas Dieu. Le docétisme, c'est une autre hérésie. Le docétisme affirme que Jésus n'est pas vraiment homme. Il a pris la figure d'un homme, mais en réalité, il est venu du ciel. En quelque sorte, c'est un peu comme dans les films Men in Black. Dans ces films, les extraterrestres prennent l'apparence d'homme. Le troisième exemple, c'est la gnose. La gnose affirme que la révélation en Jésus-Christ est uniquement un énoncé théorique. C'est un savoir à acquérir, que seul un petit nombre de personnes peuvent comprendre et donc être sauvées. Dans cette hérésie, la personne de Jésus n'est pas un sujet important, parce que la révélation de Dieu porte d'abord sur une théorie. La gnose peut prendre des formes très différentes. Si je vous ai parlé de ces 3 hérésies, c'est parce qu'elles sont encore présentes aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de personnes disent de Jésus qu'il a été un homme extraordinaire, que son enseignement est intéressant, qu'il est vraiment venu apporter un renouveau sur la terre. Mais elles ne veulent pas croire en lui. Elles ne veulent pas croire dans sa personne. Elle ne croit pas qu'il est capable de les transformer. Elle ne croit pas qu'il est Dieu. ce sont les nouvelles versions de l'hérésie de l'adoptionnisme. Il y a de nombreuses personnes qui ne croient pas dans les sacrements, qui ne croient pas que nous pouvons entrer dans la vie éternelle. Elles croient que Jésus est Dieu, mais elles refusent les moyens matériels concrets pour être en relation avec lui. Elles ne veulent pas les sacrements. Elles disent que la Bible est un texte humain seulement. Pour elles, Jésus est Dieu. Il a pris une apparence humaine dans le monde il y a longtemps. Nous n'avons de lui que des récits. Ce sont des nouvelles versions de l'hérésie du docétisme. Il y a des personnes qui croient détenir la vérité, qui croient en une force en eux, une force trouvée grâce à un secret, par une sorte de pratique mystérieuse. Elles sont convaincues d'avoir la vérité elles seules et que l'Église se trompe. Ce sont les nouvelles versions de l'hérésie de la gnose. Dans l'élaboration de la théologie chrétienne sur Jésus-Christ, il y a 7 événements importants dans les 8 premiers siècles de l'histoire. Ces 7 événements, ce sont les 7 premiers conciles. Un concile, c'est la réunion des évêques du monde autour du pape ou en lien avec lui. Cette réunion a pour but d'énoncer la foi chrétienne catholique, d'affirmer ce qui, dans la théologie, est sûr. Ce sont des événements importants, parce que ce qui est énoncé devient alors sûr, devient certain. Dans l'histoire, le premier concile a eu lieu en 325, l'année 325, dans une ville proche de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul aujourd'hui. Il y avait eu, avant cela, des réunions régionales d'évêques. Mais les persécutions des chrétiens, l'interdiction de la foi dans l'Empire, souvenez-vous, cela avait empêché un rassemblement plus large, un rassemblement très large. Ce premier concile, en 325, à Nicée, affirme les phrases du credo que le père Louis a commentées dans la vidéo précédente. Je vous les redis. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Si le concile affirme cela, si les évêques réunis ont besoin d'affirmer cela, c'est parce que des personnes contestent cette affirmation. Successivement, ensuite dans l'histoire, il y a 6 conciles jusqu'au 8e siècle. Chacun des conciles va répondre à une contestation de la foi catholique. Le concile de Constantinople, en 381, affirme que Jésus a une âme humaine, comme nous. Le concile d'Éphèse, en 431, rappelle que Jésus est une seule personne unique, même s'il est à la fois Dieu et homme. Il n'y a pas une personne Dieu et une personne homme. Le concile de la ville de Chalcédoine affirme que la nature humaine reste distincte de la nature divine en Jésus. L'humanité n'est pas avalée, elle n'est pas dissoute dans la divinité de Jésus. L'humanité de Jésus et sa divinité gardent chacune leur spécificité. Le deuxième concile de la ville de Constantinople, en 553, précise que la nature divine vient élever la nature humaine et qu'elle vient la prendre avec elle. Le troisième concile de Constantinople, en 680, rappelle que Jésus a une volonté et une liberté humaine comme la nôtre. Sa vie n'a pas été plus facile que la nôtre. Enfin, en 787, le septième concile a lieu dans la ville de Nicée, la ville du premier concile. Et ce concile affirme qu'on peut prier avec des images du Christ. Les images de Jésus représentent des événements qui ont vraiment eu lieu. Dans ces événements, Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons légitimement prier avec ces images. Nous pouvons regarder ces images pour travailler notre relation à Dieu. Les affirmations des conciles explicitent la révélation de Dieu. Elles la formulent. En Jésus, Dieu se révèle et se dit lui-même. Il dit son projet. Dieu a voulu sauver les hommes en envoyant le Fils dans le monde. Le Fils, La deuxième personne de la Trinité est Dieu. Il devient homme. Cela a d'immenses conséquences. Dieu est désormais en contact avec les hommes. Si le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est devenu homme, c'est que Dieu est désormais en contact avec les hommes. Je précise. Dieu est tout autre. Il nous dépasse infiniment. Il est notre Créateur. Il est au ciel. Il est infini. Comment fait-il pour rejoindre les hommes qui sont sur la terre? La manière que Dieu a choisie, c'est de venir lui-même. En Jésus, Dieu est sur la terre. Il parle aux hommes. Il les rencontre. Il les touche. Par là, il leur communique sa force, sa puissance, son salut. C'est ce qui se passe dans les évangiles. Jésus rencontre les personnes et il les guérit. Il leur parle et il les relève. Il les introduit dans la relation avec Dieu. En Jésus, dans la personne de Jésus, la divinité est en contact avec l'humanité. Et donc Dieu peut nous donner son salut. Le salut donné par Dieu aux hommes passe par des gestes et par des paroles. Ces gestes et ces paroles sont à la fois humaines et divines. Tous les actes de Jésus sont à la fois divins et humains. Ils sont divins parce que le Fils, la deuxième personne de la Trinité, agit. Ils sont humains parce que Jésus est un homme qui agit. Les événements et les paroles de l'Évangile sont à la fois divins et humains. C'est immensément important. Ce contact de Dieu avec l'homme dans la personne de Jésus, il est absolument essentiel. Parce que cela signifie que Dieu agit toujours dans des paroles humaines, dans des actes humains. Tous les actes de Jésus, absolument tous, même le plus simple, comme manger avec ses disciples, avec des personnes, c'est un acte divin et un acte humain. Et c'est pareil dans nos vies. Absolument tous les actes que l'on fait, c'est des actes qui participent à notre salut. Dieu agit en nous par là. Quand nous témoignons de notre foi, Dieu passe par nous. La manière dont Dieu va parler aux personnes, elle n'est pas concomitante à notre parole, elle est dans notre parole. Par conséquent, le monde a besoin qu'on lui annonce la bonne nouvelle. Le monde a besoin qu'on lui parle de Dieu. La manière dont cela se fera, c'est par nous. Et il n'y a que par nous que cela peut être fait. Dieu attend de nous que nous le fassions, parce qu'il a choisi de passer par nous. Il a choisi de rejoindre l'humanité en s'unissant à elle. Il a choisi de passer par notre humanité pour rejoindre les hommes. Cette union de Dieu et de l'homme dans la personne de Jésus, elle a une autre conséquence. C'est que l'humanité, elle est emportée par Dieu, elle est emmenée jusqu'au ciel parce que Jésus va monter au ciel. Et il va arriver la même chose pour nous. Le Seigneur nous prend dans toute notre personne, dans toute notre histoire, dans tous nos actes, dans toute notre vie. Et il va nous emmener au ciel pour l'éternité. C'est possible parce que la divinité vient en nous, vient s'unir à nous, comme la divinité est venue s'unir à la personne de Jésus et l'emmener. Pour nous, cela se fait par grâce, tandis que pour Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité qui est venue. On se demande aussi parfois, comment est-ce que je vais écouter Dieu ou même l'entendre? On écoute Dieu en écoutant ce qui se passe dans nos vies, ce que les autres nous disent, ce que notre intelligence comprend de la société et du monde, ce que nous comprenons de la Bible. Je me souviens par exemple d'une phrase de mon père, mon papa sur la terre. J'étais adolescent et il m'avait félicité pour une chose que j'avais faite. Dans sa parole, j'ai entendu bien plus qu'une phrase qu'il m'a dite. J'ai entendu que Dieu m'invitait à avoir confiance en moi. En Jésus, Dieu est en contact avec les hommes. Puisque la Bible parle de Jésus, puisqu'elle rend compte de sa vie, elle parle de Dieu et elle est parole de Dieu. Les sacrements, le baptême, la messe ou l'Eucharistie, la confirmation, le mariage, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre ou la confession, ce sont des gestes concrets par lesquels Dieu a voulu passer pour rejoindre les hommes. On appelle cela les moyens du salut. Ce sont des moyens sûrs de contact avec Dieu, parce que Jésus l'a fait, parce qu'il a demandé à ses disciples de le faire, et parce qu'il leur a donné le pouvoir de le faire. Par les moyens concrets de contact avec Jésus, par les moyens du salut, nous avons un contact réel avec lui. Plus que cela encore, Jésus a envoyé les apôtres à sa suite. Et ceux-ci, les apôtres, ont envoyé des successeurs, qui ont eux aussi envoyé des successeurs, et ainsi de suite, jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a une chaîne continue qui part de Jésus et qui rejoint chaque homme, y compris matériellement. Croire que Jésus nous rejoint, ce n'est pas un concept, c'est une réalité, y compris matérielle. En théologie, on appelle cela la chaîne instrumentale du salut. Dieu amène le salut sur la terre dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus, la divinité entre en contact avec l'humanité et elle la sauve. Par ses paroles et par ses actes, Jésus communique le salut aux hommes. Il donne aux apôtres la force et le mandat pour poursuivre cette activité après lui. Les apôtres ont institué et ordonné des évêques à leur suite, avec la force et le mandat de continuer cette œuvre. L'agir de Dieu qui nous sauve rejoint ainsi chaque personne. Il y a une chaîne qui relie chaque homme jusqu'à Jésus il y a 2000 ans. Jésus est Dieu et homme. Si la deuxième personne de la Trinité peut devenir homme, c'est que l'humanité est compatible avec Dieu. C'est que l'humanité est une création dotée de toutes les facultés nécessaires à la vie avec Dieu. Sinon, Dieu ne pourrait pas s'unir à l'humanité. Il ne pourrait pas être à la fois Dieu et homme dans la personne de Jésus. La venue du Fils de Dieu en Jésus nous révèle la grandeur de l'homme. Rappelons-nous les enseignements sur la création. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cette image n'est pas une vague ressemblance, c'est une proximité. C'est une compatibilité stupéfiante, puisque Dieu lui-même peut venir habiter dans un homme. En devenant homme en Jésus, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, élève l'humanité à une proximité avec Dieu d'une manière inimaginable par les Juifs et les philosophes. Jésus est né dans l'histoire. Son corps s'est constitué peu à peu. Son âme humaine a été créée comme toutes les âmes humaines. La seule différence de l'humanité de Jésus avec la nôtre, c'est que l'humanité de Jésus est parfaite. Elle n'a aucun défaut. Jésus a une humanité parfaite. Il est l'exemple et le modèle pour nous. Cela apparaît à un moment très étonnant de l'Évangile, au moment de la passion de Jésus. Dans l'Évangile, quand Jésus est arrêté, quand il est mis en procès, Pilate, le gouverneur de la Judée, vient présenter Jésus au peuple, au tribunal. Il dit devant le peuple en montrant Jésus, « Voici l'homme ». Il ne s'est pas rendu compte, à ce moment-là, de la profondeur de ce qu'il disait. En disant cela, il désigne l'homme par excellence. Il désigne l'homme tel qu'il est vraiment, l'homme parfait. Regarder Jésus agir et parler, c'est regarder un exemple et un modèle. Si Jésus n'était pas vraiment Dieu, ou pas vraiment homme, il ne pourrait pas être le modèle parfait. En Jésus, la volonté humaine est allée vers Dieu. En Jésus, l'intelligence humaine a vu Dieu et elle l'a entendu. Elle l'a écouté, elle en a parlé. En Jésus, les actes humains ont été des actes de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix est un sacrifice de Dieu et un sacrifice d'homme. En Jésus, toute l'humanité est allée vers Dieu, parfaitement. Rappelons-nous, l'humanité est faite pour Dieu. Elle est tournée vers Dieu. Mais depuis le péché originel, depuis le premier péché, l'humanité est défigurée. Elle ne parvient plus à vivre ce pour quoi elle est faite. Elle ne parvient plus à faire ce pour quoi elle est faite. En Jésus, l'humanité parvient à un sommet. elle parvient à faire ce qu'elle n'était jamais arrivée à faire. En Jésus, Dieu donne donc à l'humanité de faire un acte parfait. Pour sauver les hommes, Dieu fait plus qu'un acte condescendant. Il fait plus qu'un acte venant de haut. Il donne aux hommes de se racheter par un acte parfait, par un homme parfait, par Jésus. C'est comme s'il libérait les prisonniers d'une prison, non seulement en leur pardonnant leurs crimes, mais en leur donnant en plus d'être désormais des exemples, d'agir de manière parfaite et de mériter d'avoir été libérés. Ayons conscience de cela. Désormais, nous en sommes sûrs. Notre intelligence est capable de contempler Dieu. Notre volonté est capable de vouloir comme Dieu, d'aimer comme Dieu. Nous le savons parce que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Nous avons donc vu aujourd'hui comment la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a été formulée dans l'histoire. Nous avons expliqué la chaîne de Dieu jusqu'à chaque homme, la chaîne instrumentale du salut. Et nous avons vu comment notre humanité est élevée en Jésus à un degré que nous n'aurions jamais pu imaginer. Saint Grégoire de Nazianze, un grand théologien du IVe siècle, qui vivait en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, écrit « Ce qui est uni à Dieu est sauvé ». Il parle de l'humanité unie à Dieu dans la personne de Jésus, et il parle de nos vies à nous, en tant qu'elles sont unies à Dieu. Vivons nous aussi cette union à Dieu. Merci de votre écoute. À très bientôt pour une autre catéchèse. Nous allons poursuivre l'explication du Credo.